le 13 novembre 84.
Pour être en contact avec un autre législateur, hein. C'est toujours intéressant de mettre en parallélisme entre les deux, vous savez. Parce que, autant Platon part dans ses idées, autant Moïse va être conduit, téléguidé par un plus grand que lui, sans avoir aucun projet, donc aucune idée par rapport à l'État. Et cependant, vous voyez, la même sensibilité par rapport à la justice. Hein. C'est quand même très beau de voir ça. Parce que ce petit dialogue hein, de Moïse avec l'Égyptien, petit dialogue assez tragique, c'est par rapport à la justice. Hein. La colère de Moïse, n'oublions pas. Il faut mettre une fiche hein, quand vous lisez l'Écriture. Ayez une fiche sur la théologie des colères de Dieu. Et si vous avez le temps plus tard, vous ferez une théologie des colères de Dieu. C'est très important. À travers toute l'Écriture, les colères de Dieu. Et il y a les colères des hommes. En petit caractère. Et en gros caractère, la colère de Dieu. Les colères de Dieu nous montrent donc les vulnérabilités de Dieu. Parce que la colère va toujours, hein, le propre de la colère, montre les vulnérabilités de chacun d'entre nous. On se met en colère quand on est en présence d'une injustice. Or, chacun d'entre nous, nous avons nos vulnérabilités particulières par rapport à telle ou telle injustice. Pour celui qui fait de l'économie, c'est les injustices sociales. Pour celui qui fait de la théologie et qui cherche la vérité, c'est le manque de vérité. C'est évident qu'un bon théologien, quand il est en face d'un livre qui apparaît écrit par un théologien qui dit de grosses bêtises, il se met en colère. Et quand quelqu'un a un très grand souci de la justice sociale et qu'il s'aperçoit qu'il est en face d'injustice, il se met en colère. Un bon médecin, quand il est en face d'un malade qui a été soigné par un autre médecin et que ce médecin a fait de grosses bêtises, il se met en colère parce qu'il est en face d'une injustice. Vous voyez ? Alors, il faut saisir ce point de vue-là, il faut saisir le domaine par où on est particulièrement vulnérable. Et les colères de Dieu nous révèlent les vulnérabilités de Dieu. Et c'est ça qui est très beau, les vulnérabilités de Dieu. Et donc, les modalités particulières dans lesquelles nous devons découvrir son amour. Parce que plus on aime, plus on est vulnérable. Quand on n'aime pas, et c'est une des raisons pour lesquelles, du reste, souvent, on ne veut pas aimer. Parce qu'on est beaucoup moins vulnérable. Tandis que dès qu'on aime, on devient vulnérable. Dès qu'on aime quelqu'un, on est vulnérable à l'égard de cette personne. Et si on commet une injustice à l'égard de cette personne, on se met tout de suite en colère. Tandis que si on n'est pas très aimant, on peut assister à des tas de choses et puis on ne bouge pas. Regardez, quoi. Quand vous voyez un accident sur la route, vous êtes ému, évidemment. Mais si vous découvrez une personne que vous aimez, qui est justement accidentée, mais vous vous précipitez, et puis immédiatement vous essayez de comprendre qu'il faut la défendre. Vous voyez, les vulnérabilités, hein, c'est très très important, ça. Alors la théologie des colères, et ça on va voir, hein, avec l'Exode, on va voir la théologie des colères, je vous affirme. Et alors il faudra essayer, parce que si nous faisons en théologie biblique, nous voulons découvrir ce que chaque livre de l'Écriture nous met en pleine lumière vis-à-vis du mystère de Dieu. Une fois qu'on aura terminé l'Exode, on se posera la question, quelle différence y a-t-il entre l'Exode et la Genèse ? Est-ce qu'il faut rêver ce point de vue-là, qu'il faudra avoir une Bible avec des couleurs différentes, n'est-ce pas ? Non pas simplement les dieux, mais les couleurs différentes qui sont les révélations du mystère de Dieu. Et chaque livre, j'en suis sûr, je ne pourrais pas le dire comme ça, mais chaque livre nous révèle un aspect du mystère de Dieu. Ce n'est pas le hasard. Hein. Donc chaque livre nous révèle. Et tant qu'on n'a pas découvert ça, on n'a pas le secret de la Bible. Puisque c'est la révélation du mystère de Dieu pour les hommes. Et donc nécessairement, on doit découvrir à travers tous les livres de la Bible. Il faut se poser la question quand vous lisez la Bible, si vous la lisez intelligemment et si vous la lisez en croyant et d'une manière contemplative. Chaque livre nous donne un aspect particulier du mystère de Dieu. Un aspect des attributs de Dieu. Un aspect du mystère de la contemplation de Dieu. Alors, c'est ça qu'on doit chercher hein, quand on est dans le point de vue de l'Exode. Et dans chaque livre de l'Écriture. Donc nous avons vu cette chose étonnante de la colère de Moïse. Moïse élevé chez le Pharaon, ayant pris les mœurs du Pharaon, ayant été traité comme un fils du Pharaon, reçoit donc tout ce qu'il y a de meilleur de la culture égyptienne. Alors n'oubliez pas ce que dit Aristote à propos de la culture égyptienne, enfin, là où sont nés, où est née la connaissance mathématique, les connaissances spéculatives, parce que les prêtres, la caste sacerdotale, avaient beaucoup de loisirs. Les mathématiques sont nées des loisirs de la caste sacerdotale. C'est pour ça que les mathématiciens ont toujours un relent mystique. N'est-ce pas ? Ça fait partie de ce que représente le point de vue des mathématiques. Or, en ces jours, je reprends un tout petit peu le chapitre 2. Or, en ces jours, Moïse, qui avait grandi, parce que j'aime beaucoup ce passage, se rendit chez ses frères et vit leur corvée. Donc, il voit l'injustice. Il vit leur corvée. On les traite comme des esclaves. Ils sont esclaves du Pharaon. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères, s'étant tourné de tous côtés et voyant qu'il n'y avait personne. Il est prudent. Il domine sa colère. C'est donc une colère sainte, puisqu'il est prudent. Il frappa l'Égyptien et l'enfouit dans le sable, très vite fait. Il sortit le lendemain, et voici que deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère, ton prochain ?» Vous voyez, deux scènes où il veut, où il se met en colère en face de l'injustice. La qualité dominante d'un législateur, ça doit être la justice. Donc Dieu l'a préparé à ça. C'est ça qu'il nous est montré. On ne montre pas les extases de Moïse. Hein? Non. On ne montre pas. On nous montre que Moïse a un sens d'une rectitude extraordinaire au point de vue de la justice. Pourquoi frappes-tu ton prochain ? Celui-ci dit, qui t'a établi chef et juge sur nous ? Vous voyez, on voit tout de suite le juge. Hein? Dans le législateur, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse prit peur et se dit, à coup sûr, la chose est connue. Pharaon a pris cette affaire et chercha à tuer Moïse. Et Moïse s'enfuit de devant Pharaon et vint habiter au pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Toujours, hein? Alors ça aussi, une fiche sur les puits, très important. Les puits, l'importance des puits. Il faut essayer d'analyser de cette manière-là pour avoir une vision d'une économie divine hein, sur la révélation. Les prêtres de Madian, le prêtre de Madian avait 7 filles. Enfin, n'oubliez pas qu'auprès des puits, c'est toujours des rencontres nuptiales. Hein? Alors, vous allez encore avoir aussi une rencontre nuptiale. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour faire boire le petit bétail de leur père. Arrivèrent les bergers qui les chassèrent. Moïse se leva, prit leur défense. De nouveau, troisième geste de justice. Et fit boire leur petit bétail. Elles revinrent auprès de Raguel, leur père, qui dit « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui ?» Elle dit « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il a puisé pour nous et fait boire le petit bétail. » Il dit à ses filles « Et où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne un repas. » Moïse consentit à habiter avec cet homme qui donna Sipora, sa fille, à Moïse. Hein? Là, il n'y a pas de coup de foudre parce qu'ils étaient sept. Alors, c'était difficile. Alors, c'est une qu'on donne à Moïse. Hein? C'est très, très joli. Regardez les deux avant, hein? Point de vue de Rebecca et point de vue de Rachel. Et la troisième, c'est Sipora. Sipora, il y a moins de choix particuliers. Hein? C'est le père qui a choisi pour Moïse. Enfin, étonnant, Moïse est tellement sérieux qu'il s'en remet au raisonnement du père. Ça fait partie de la prudence merveilleuse de Moïse. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guerchom, car, dit-il, j'ai été un résident, Guer, en pays étranger. Donc c'est le fils de la résidence. Or, pendant ces longs jours, mourut le roi d'Égypte. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude. Ils crièrent, et leur cri d'alarme monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leur soupir. Alors, voyez, point de vue, révélation. Hein? Moïse est sensible à l'injustice. Il est l'image de Dieu. A fortiori, Dieu est sensible à l'injustice. Voilà quelque chose qui n'était pas révélé du tout de la même façon avec la Genèse. La Genèse, c'est la paternité. Or, dans une famille, il n'y a pas de justice. Il y a le bon plaisir de Rebecca. C'est bien évident. Et il y a le bon plaisir de Jacob. C'est très curieux ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de justice. En dehors de la famille, ce serait une injustice. Faire passer le Benjamin avant l'aîné. Non, parce qu'on est en famille. En famille, c'est la piété filiale. En famille, ce n'est pas la justice au sens absolu. Dès qu'on sort de la famille, on voit la justice. Alors, la justice apparaît. C'est pour ça que je vous dis, il y a un parallélisme à faire avec la République de Platon et puis l'Exode. C'est un parallélisme qui n'a pas été fait, mais que nous pouvons faire. Parce que c'est des deux côtés une recherche de justice. Et des deux côtés, nous allons découvrir ce que représente la justice. Alors, nous, la justice, elle est en grande lettre en Dieu. Mais elle est en grande lettre ici. Alors, on est passé de Moïse sensible aux injustices et Dieu sensible à l'injustice. La vulnérabilité de Dieu. Ils crièrent et leur cri d'alarme monta vers Dieu. Alors mettez à côté du cri de l'enfant qu'on avait déjà vu, Agar, le cri ici des Hébreux. Très curieux, la prière dans sa fine pointe est un cri d'appel. Et on comprend très bien, parce que quand on est dans l'agonie, on ne parle plus, on crie. Jean-Baptiste, Jésus sur la croix. Vous voyez ? Les cris d'appel. Et ça, c'est important, parce que ça vous donne une... Ça vous fait comprendre ce que ça représente. Hein. Il faut avoir suffisamment de santé pour parler. Quand on ne peut plus avoir beaucoup de... Quand on est trop fatigué, on ne parle plus, parce que c'est une fatigue de parler. Et quand on n'en peut plus, on crie. Ils crièrent et leur cri d'alarme monta vers Dieu du fond de la servitude, du fond de l'abîme, hein? L'abîme de la servitude. Dieu entendit leur soupir Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les fils d'Israël et se fit connaître d'eux. Alors, vous voyez bien la justice liée à la fidélité. Il se souvint de son alliance. Ce n'est pas une nouvelle alliance. Donc nous entrons maintenant dans le souvenir de l'alliance. Et le souvenir de l'alliance fait appel à une fidélité. Dieu est fidèle. Et c'est parce qu'il est fidèle que, de fait, il a cette vulnérabilité particulière à l'égard d'une injustice vis-à-vis des fils, des petits-fils, de ceux qui ont reçu l'alliance. Donc, c'est pas l'homme, hein. Remarquez bien. C'est une justice, c'est une vulnérabilité à l'égard de la promesse, à l'égard de l'alliance, et à l'intérieur de la fidélité. Et donc, c'est une justice qui regarde les petits-fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la différence avec ce que nous verrons, la justice du Christ à la croix, c'est par rapport à l'homme. Tandis qu'ici, c'est par rapport aux petits-enfants, aux petits-fils d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Moïse, il est berger. C'est un berger très intelligent, un berger qui a reçu une merveilleuse formation auprès du Pharaon. C'est très très joli ça. Il faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau par-delà le désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu. Donc nous sommes en présence ici, d'une certaine manière, on pourrait dire, d'une première annonciation. Je crois que c'est la première annonciation. Du point de vue préfiguratif. Il n'y a pas d'annonciation chez les prophètes, chez les patriarches. Il y a une révélation secrète d'une alliance. Une alliance d'amour. Ici, c'est une annonciation, ce n'est pas la même chose. Hein. Alors, l'annonciation peut impliquer une alliance, l'annonciation peut annoncer une alliance, mais l'annonciation, c'est promettre quelque chose, c'est annoncer quelque chose. C'est d'ordre prophétique, si vous voulez. Tandis que l'alliance, elle est d'ordre prophétique aussi, mais elle implique une réalisation immédiate. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda. Et voici que le buisson était brûlé par le feu, mais le buisson n'était pas dévoré. Ceci qui a beaucoup frappé tous les pères de l'Église. Ce symbolise du buisson qui est brûlé. Yahvé lui apparu dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était brûlé par le feu. Puisqu'il y a la flamme de feu au milieu du buisson. Mais le buisson n'était pas dévoré. Merveilleux symbolisme. Extraordinaire. C'est l'aspect théâtral, si vous voulez, hein, symbolique, sur lequel la première apparition d'y avait. C'est la première. Alors c'est le feu, le buisson, il apparaît dans une flamme de feu, dans un buisson, l'arbre, et le buisson qui n'est pas dévoré. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir ce grand spectacle. Bien, c'est du théâtre. Pourquoi le buisson ne brûle pas? extraordinaire, hein, l'interrogation de Moïse, hein, l'interrogation devant cette réalité qu'il n'a pas encore expérimentée, en bon berger qu'il est, et en homme habitué au Pharaon. Il y a quelque chose qui est admirable, qu'on ne comprend pas. Il y a du feu et le buisson ne brûle pas. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Mais l'interrogation qui suscite ce désir et qui va faire que Moïse est dans un état d'étonnement. Yahvé vit qu'il avait fait un détour pour voir. Il a été à l'école du Pharaon, alors il veut voir, hein, diraient les gens, en disant le peuple d'Israël, c'est avant tout écouter, tandis que les Grecs, c'est voir. Vous savez, on a fait cette petite opposition complètement stupide. Hein. C'est complètement. Mais alors, c'est intéressant de voir que ça ne tient pas, vous comprenez? Moïse, je sais bien, on va dire, ah, ça c'est l'école du Pharaon, donc c'est les mathématiques, et donc il veut voir. Hein. On a développé en lui le sens spéculatif, il veut voir. Et on voit très bien le désir de Moïse de voir. Et il prend une petite méthode particulière, il fait un détour. Hein. Et ça, Yahvé le voit tout de suite. Yahvé vit qu'il avait fait un détour pour voir. C'est merveilleux, ce climat dans lequel on voit cette alliance. Et Dieu l'appela. Ah, Louis. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Elle a demandé au Saint-Esprit l'intonation. C'est le premier psaume. Me voici, dit-il. Alors il dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Oui. Il y a déjà eu des actes liturgiques avant, autour du sacrifice. Et la liturgie a commencé auprès du sacrifice. Ici, la liturgie prend un autre développement. C'est une liturgie de la présence. Pas la même chose. Et ce serait intéressant de voir ces deux liturgies. La liturgie du sacrifice et la liturgie de la présence. C'est nettement la présence. Hein. C'est l'appel, c'est Dieu qui l'appelle, c'est Dieu qui lui demande d'être présent. Il dit, me voici. Tout de suite. Le scout, Moïse, hein, me voici. Il est pas présent immédiatement. À l'appel de Dieu. Donc, il se dit présent à Dieu. Et Dieu qui, tout de suite, hein, lui donne la condition. Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes sandales, les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, ceux qui s'intéressent à la sainteté dans l'Écriture, notez bien ce premier texte sur la sainteté. C'est le lieu qui est saint, donc qui appartient à Dieu. C'est une terre sainte. Vous savez, au moment de la guerre des six jours, partout on voyait en Israël, puisque je suis passé peu de temps après, partout, lieu saint. Qu'est-ce que ça voulait dire? N'y touchez pas. On ne touche pas à un lieu saint. Ça n'appartient plus aux hommes. Ça appartient à Dieu. Une terre sainte. On mettait ça sur tous les couvents. Sur tous les couvents, il était mis lieu saint. Terre sainte. C'est-à-dire une terre consacrée à Dieu. Alors, point de départ, sur le point de vue de la sainteté, c'est ça. N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il avait peur de regarder vers Dieu. On ne dit pas regarder Dieu, mais regarder vers Dieu, de sortir l'appel. Bien, c'est vraiment la liturgie de la présence. C'est très très beau. Alors, le respect, ôter ses sandales. Le respect. Cette terre sainte, on ne peut pas la fouler n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, il faut ce geste de respect. La sainteté appelle ce point de vue du respect. Et la sainteté est comme le rayonnement d'une présence. C'est le rayonnement de la présence de Dieu. Et Dieu appelle. Alors, notez également, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais le père, c'est Abraham. C'est évident que Abraham, c'est le père par excellence. On ne dit pas Isaac, c'est le père par excellence. On ne dit pas le Dieu de tes pères, le Dieu de ton père. Et c'est le Dieu d'Abraham. Et Dieu se nomme toujours par l'alliance. On ne dira pas le Dieu de Moïse. C'est curieux. C'est le Dieu de l'alliance des pères, parce que c'est une alliance d'amour. Et que la paternité s'allie en premier lieu avec les pères. Alors, le geste de Moïse, cet homme croyant, et par le fait même qu'il a la crainte de Dieu, il se voila la face, car il avait peur de regarder vers Dieu. Il avait dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu sa clameur devant ses surveillants. Oui, je connais ses douleurs. Très fort, ça. Hein? Première grande révélation de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, justice et miséricorde vont aller de pair tout de suite. On ne nous révèle pas uniquement la justice de Dieu, on l'a fait comprendre, Dieu a entendu le cri d'appel, pour réveiller justement les entrailles, et immédiatement la révélation de la miséricorde. La miséricorde, vous savez bien, implique trois éléments. Vous allez les voir du récit ici, d'une façon descriptive. La connaissance de la misère de l'autre. La compassion à l'égard de sa misère. Et tout mettre en cause pour supprimer cette misère. Toujours ces trois éléments. Et nous les voyons ici d'une façon descriptive pour que nous comprenions bien ce mystère de la miséricorde de Dieu. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu, alors reprenez bien toute la connaissance. Hein. C'est merveilleux, parce que c'est un anthropomorphisme merveilleux d'attribuer ça à Dieu. Hein. La vision, il a entendu. J'ai entendu sa clameur devant ses surveillants. Oui, je connais ses douleurs. La douleur, on la connaît de l'intérieur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Voilà le geste de la miséricorde. La libération. Pour le délivrer, donc la grande théologie de la libération ici. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Périsites, les Hivites, et les Jébuséens. Et maintenant, voici que la clameur des fils d'Israël est venue jusqu'à moi. J'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppressent. Et maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Donc je crois que c'est bien la grande révélation de la miséricorde de Dieu à l'égard de son peuple. Vous voyez cette chose très très mystérieuse, hein, si on essaie de comprendre l'économie divine, qui nous est révélé. Il y a eu un grand silence de Dieu sur le peuple d'Israël. Pendant tout le temps où le peuple d'Israël était en Égypte, à partir de Joseph, et que progressivement, nous l'avons vu, le Pharaon veut prendre une emprise sur lui pour en faire ses esclaves. Et pendant un grand moment, il y a eu cette permission de Dieu et ce silence de Dieu. Là aussi, c'est une des choses dont on doit être très, très éveillé dans l'Écriture. Les silences de Dieu. Il y a la théologie des silences de Dieu. S'il y a la théologie des colères de Dieu, il y a la théologie des silences de Dieu. Et la théologie des silences de Dieu est quelque chose de très important pour nous. C'est peut-être une des choses qu'on doit prêcher le plus dans le monde d'aujourd'hui. Parce que plus on est en phase de misère atroce, plus il faut parler des silences de Dieu. Pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite ? Qu'il les voit. Puisqu'il les voit. Alors ça, il faut essayer de comprendre la théologie des silences. Et vous voyez que la théologie des silences, c'est typiquement une théologie biblique et une théologie mystique. C'est pas une théologie scientifique. Je suis bien, dans saint Thomas, il n'y a pas la théologie des silences de Dieu. Non. Et c'est pourtant une des choses dont les hommes ont le plus besoin d'entendre. Et c'est là où, en retrouvant le point de vue de la théologie de l'économie divine, nous retrouvons ce que la théologie scientifique ne peut pas dire et ne doit pas dire, mais que nous devons dire en théologie de l'économie divine et en théologie mystique. Alors, pas de la même façon, c'est ça qui est intéressant à voir. On essaiera de comprendre cela progressivement. Mais ici, c'est très net, hein, et c'est noté, si vous êtes attentif. Hein. Or, pendant ces temps, ces longs jours, mourut le roi d'Égypte, les fils d'Israël gémirent du fond de leur servitude. Comme si avant, ils ne gémissaient pas. Hein ? Très curieux. Et alors, ça explique ce silence de Dieu. Ils ne gémissaient pas parce que, de fait, ils étaient chloroformés. On peut chloroformer les gens en leur faisant comprendre que cette servitude, mais c'est merveilleux, vous avez tout ce qu'il faut, le bien-être. On est en train de chloroformer la France. C'est bien évident. Vous avez le bien-être. Là, on enlevera le chloroforme dans la mesure où il n'y aura plus le bien-être. Hein? Payer ses impôts. Et on n'aura plus possibilité d'avoir le bien-être voulu. Mais tant qu'on peut maintenir le bien-être, on maintient une matière de faire calmer les gens. Ils ne voient plus, ils ne prient plus. Alors, c'est assez significatif, ça. Et c'est intéressant parce que, si on voit le point de vue du silence de Dieu, à quel moment ça s'arrête ? Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude. Ils crièrent et leur cri d'alarme monta vers Dieu du fond de leur servitude. Et Dieu entendit leur soupir. Et Dieu se souvint. Oui, c'est à partir de là, il y a comme un réveil de Dieu, hein, comme si Dieu dormait lui aussi et qu'il avait laissé tout le point de vue des Hébreux rester dans la servitude. Il y a un moment d'un réveil. L'Esprit Saint qui subitement réveille. De remonter vers Dieu. Alors, voyons bien. Dieu qui nous révèle son cœur miséricordieux. Et maintenant, voici que la clameur des fils d'Israël est venue jusqu'à moi. Et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les opprimaient. Et maintenant, va.
je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Donc Dieu, dans sa miséricorde, suscite un instrument de salut. Mais la théologie de la libération se fait par Moïse. Elle ne peut pas se comprendre en dehors de Moïse. Ça, c'est aussi très important à voir pour toute la théologie de la libération. Puisque Moïse est préfiguratif du Christ. Donc, toute théologie de la libération se fait par l'intermédiaire du médiateur. Et nous ne remplaçons pas le médiateur. Ça fait partie des mœurs de Dieu, ça. On voit très bien avec Moïse, et puis la reprise avec Jésus. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» On voit très bien que Moïse a une très grande peur du Pharaon. Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? C'est tout de suite ça qu'il voit. Hein. Pour faire sortir d'Égypte le peuple, les enfants, les fils d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Ce qu'avait oublié Moïse. Moïse ne voyait que le Pharaon qu'il devait voir. On en est tous là, hein. C'est exactement ça. Quand Dieu nous demande quelque chose, immédiatement, nous disons, mais que suis-je ? Je suis impossible, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Je serai avec toi. Chaque fois que Dieu nous envoie, il est avec nous. Ça fait partie de la mission. Chaque fois que Dieu nous conduit au couvent, il est avec nous. Ça fait partie de la vocation. C'est évident, ça, c'est sûr. Mais de temps en temps, on ne voit pas Dieu et on se voit. Alors, on voit sa misère, on voit son impossibilité de réaliser la chose et on oublie complètement de voir que Dieu est présent. C'est pour ça que c'est très très joli comme théologie de la présence. Hein. Il y a la théologie du silence et le point de vue de l'absence. Je serai avec toi. Et ceci te sera le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. La libération, c'est en vue de l'adoration. Si je suis attentif à ce premier texte de la théologie de la libération, quand même respecter la parole de Dieu. Et si je veux faire une théologie de la libération, je dois regarder comment Dieu réalise cela. Donc Moïse, il gagne du temps en voyant qu'il est un pauvre type. Que suis-je pour aller vers Pharaon ? Et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël. Alors Dieu, la hâte de Dieu, je serai avec toi. Et ce titre servira de signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Vous voyez, toujours les craintes mettaient ça en parallèle avec la mission de Zacharie. C'est la même chose. Il faudrait mettre en parallèle ici toutes les annonciations. Jusqu'à la dernière. C'est aussi une chose qu'on doit faire quand on lit l'Écriture. Parce que le mystère de l'Annonciation, c'est quand même un mystère fondamental pour nous. Et pour mieux le connaître, il faut regarder toutes les Annonciations. Alors ici, vous avez la première. Hein. Première liturgie de la présence d'une Annonciation. Moïse dit à Dieu... Voici que je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent, quel est son nom ? Vous voyez la crainte. Il va paraître pour un illuminé. Il a très peur, Moïse. Hein ? depuis qu'il a abattu l'hébreu. Il a très très peur de tout le contexte, on le voit très bien. Évidemment, là, il est un peu plus loin. Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirais-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Alors ça, c'est la fameuse parole. Voyez l'annonciation qui donne à Moïse une mission, et pour que Moïse puisse réaliser parfaitement cette mission, il faut la présence de Dieu. Il faut que Dieu se donne en disant son nom. C'est pour ça que je suis bien en présence de cette liturgie de la présence. On n'est pas en présence de quelqu'un quand on ne sait pas son nom. Profondément, vous voyez bien, c'est pas une dénomination, mais son nom. Que leur dirais-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Ça, c'est tout à fait nouveau, vous voyez? D'habitude, Dieu prend comme nom une de ses actions auprès de son peuple. C'est le propre de toute la théologie des noms de Dieu. Chaque fois que Dieu passe, chaque fois que Dieu s'approche, Dieu réalise quelque chose, une présence qui réclame un autel. Dieu est là. Et alors, il y a une action de Dieu, une action bienveillante de Dieu. Et à partir de cette action, on nomme Dieu. Ce qu'il y a de tout à fait caractéristique ici, c'est que Dieu se nomme lui-même. Sans référence à aucune action. Sans référence à aucune œuvre. Quelque chose qui viendrait de lui. Il se nomme. Il est présent. Et c'est cette présence qui prend tout. Je suis. Ça, il faut comprendre la force de cette affirmation. Je suis m'envoyé vers vous. Donc c'est Dieu qui se révèle à Moïse pour que Moïse soit capable de transmettre aux autres cette présence. Une pure présence, j'allais dire. C'est la pure présence. Je suis. Parlera ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom à jamais. C'est mon appellation de génération en génération. De grandeur, de gravité extraordinaire que Dieu révèle à Moïse, qui lui demande son nom, tout simplement pour pouvoir être reçu des autres, pour pouvoir être vraiment un mandaté. Si on est un mandaté, conscient, on doit savoir de qui on est mandaté. Et donc on doit savoir le nom de celui qui nous envoie. Si on ne sait pas le nom de celui qui nous envoie, on a l'air toujours d'un quelqu'un qui a l'air un imbécile, quoi. Ou un illuminé. Tandis que là, non. Si je suis mandaté par quelqu'un, oui, agir in persona Christi. Hein, il n'y a pas un petit quelque chose ici comme ça. Agir dans la personne de Yahvé. Être mandaté par lui. Être saisi par lui pour être vraiment le représentant et qu'en le voyant, il y a une présence de Yahvé. Il y a une présence de Yahvé. Il y a quelque chose qui se transmette.
C'est mon nom à jamais. C'est mon appellation de génération en génération. L'au-delà de toutes les générations, c'est « je suis ». C'est celui qui est au-delà de toutes les générations. Alors, vous savez bien, on a fait des tas de comparaisons, d'interprétations. Vous n'avez qu'à lire dans la Bible de Jérusalem ce qui est dit là-dessus. Je veux bien vous le lire dans la Bible d'Ostie, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette affirmation du « je suis celui qui est ». Verset fameux qui traite du nom de Dieu, qui traite du nom du Dieu d'Israël, Yahvé, attesté ailleurs sur la forme de Yah, Yo, Yahou, Yahu. Quelle que soit leur origine, il reçoit ici une explication par le verbe être. Dieu dit « je suis ». Les Israélites diront « il est », c'est-à-dire « Yahvé ». C'est-à-dire, donc pour désigner le Dieu des Pères. Tandis que, alors, en 6, chapitre 6, verset 2, chapitre 6, 7 et 8, on lit clairement « moi », c'est-à-dire « je suis Yahvé ». La formule « je suis qui je suis » laisse planer le mystère sur l'être de Dieu. Alors c'est ça, ce mystère qui va planer sur l'être de Dieu. Le « je suis » est une chose plus affirmative. Tandis que lorsqu'on dit ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est quelque chose de particulier. Laisse planer le mystère sur l'être de Dieu. Et elle évite de le définir tout en exprimant sa réalité et son action. Confère les expressions du genre « je fais grâce à qui je fais grâce ». »« Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde ». »« Je suis celui qui suis ». On traduit encore « je suis ce que je suis ». »« Je suis parce que je suis ». »« Je serai qui je serai ». Les traductions « je suis celui qui suis » ou avec le grec « je suis celui qui est » que l'on entend « je suis celui qui est par lui-même » ou « celui qui est éternellement, l'éternel » insiste sur Yahvé qui est « face aux dieux qui ne sont pas des dieux ». Et elle ouvre la voie aux spéculations métaphysiques sur l'être absolu et l'acéité de Dieu. Ça, je voulais vous le dire. Non, alors ça, c'est hostie. Jérusalem dit pas tout à fait autre chose. Parce qu'alors, vous voyez qu'à partir de là, vous savez bien, il y a deux grandes exégèses qui se sont faites. Une positive, celle des pères de l'Église. Je suis celui qui suis, et que saint Thomas va achever dans un traité de la Somme à propos des noms divins. Vous pouvez lire cet article, il est très beau. Où saint Thomas lui-même commente dans la théologie le point de vue, et on comprend cette affirmation « je suis celui qui est ».« Je suis qui je suis ». Saint Thomas commence là pour montrer que Dieu se présente de cette manière, se nomme de cette manière, par le nom qui lui est le plus propre. Qui est le nom le plus commun, l'être. Pouvoir s'approprier l'être, c'est le propre de Dieu. Or, il s'approprie l'être en disant « je suis ». Et en disant « je suis », il s'approprie l'être. Et donc, il s'approprie ce qu'il y a de plus commun, puisque toutes les réalités existent et sont. Et donc, c'est de cette manière que les pères de l'Église ont vu que cette révélation était la révélation la plus profonde sur le mystère de Dieu. Il y avait, et c'est pour ça qu'on ne va pas prononcer le nom de Dieu. Et on ne prononcera pas. Nous nous prononçons à partir de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Nous pouvons prononcer le nom de Dieu grâce à Jésus. Et avant Jésus, on ne prononçait pas, parce que c'est un nom ineffable. Donc, toute une grande
tendance, qui est la tendance la plus grande chez les pères de l'Église, de comprendre cette affirmation « je suis qui je suis » d'une façon positive comme la révélation de l'être propre de Dieu. Puis alors, il s'est fait, ça je n'oserais pas dire à quel moment, je crois qu'il y a certains pères de l'Église qui déjà le disent, mais c'est surtout l'interprétation moderne, qui est une interprétation qui veut dire que Dieu, en disant « je suis qui je suis », Dieu ne veut pas se nommer. Donc c'est pris d'une façon purement négative. Dieu ne veut pas se nommer. Et c'est vrai que si je prends un peu matériellement cette affirmation, je suis qui je suis, ça ne définit rien du tout. Hein. Si le père prieur vous demande quand vous arrivez, qui êtes-vous ? Et que vous répondez, je suis qui je suis. Qu'est-ce qu'il dira à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il sait ? Il dira, mais explicitez un peu, qu'est-ce que vous êtes ? Dites un peu ce que vous êtes. Oui, ça peut... Et dans le langage courant, c'est ça qu'il faut faire attention. Hein. Je fais exprès ça, parce que je montre que dans le grand langage courant, en effet, quelqu'un qui dit à l'autre, quand on lui demande quel est ton nom, je suis qui je suis. C'est une manière de se cacher, de se voiler. C'est une manière de ne pas répondre. C'est très vrai, dans le langage courant. Mais attention, on doit toujours interpréter en fonction du contexte. Et il me semble que cette interprétation n'est pas suffisamment en fonction du contexte. Si vous regardez attentivement, vous voyez bien. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, « Voici que je vais aller vers les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Moïse obéit. Il est donc lié à Dieu. Il est lié au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est l'alliance qui se continue dans la fidélité. Comprenons bien ce contexte, hein, parce qu'autrement, alors je dis oui, deux interprétations, choisissez. Je me souviens, moi, quand j'ai, avec mes bons pères exégètes, quand j'ai vu ça, on m'a dit deux interprétations, choisissez. Eh bien non. Alors évidemment, on dit celle des pères de l'Église, quand même, sont des saints, ils doivent comprendre la parole de Dieu, ils doivent la comprendre plus profondément que ceux qui ne regardent qu'un aspect particulier. Mais il y a quelque chose qui me semble très important à noter, c'est tout le contexte. Ce contexte est très fort, parce que Moïse obéit. Et Moïse obéit, donc, en obéissant, il continue l'alliance. Puisque Dieu montre qu'il est fidèle, Moïse doit être fidèle. Et il est fidèle par l'obéissance, en obéissant. Voici que je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il m'envoie vers vous. S'ils me disent, quel est son nom ? Ah. Jamais Abraham n'a demandé ça. Jamais Isaac n'a demandé ça. Jamais Jacob n'a demandé ça. Toute la famille d'Abraham, avec Joseph et Benjamin, n'ont jamais demandé ça. L'expérience que leur père avait de Dieu suffisait. Et ils vivaient cette expérience. On était dans un contexte familial. Dans un contexte familial, on vit de l'expérience de ses pères. Propre de la famille, ça. Quand on n'est plus dans un contexte familial, et on n'est plus dans un contexte familial, on est devant un peuple qui a grandi. À ce moment-là, la référence au Père Abraham, Isaac et Jacob ne suffit plus. Voyez comment est indiqué quelque chose de tout à fait nouveau dans la relation du peuple hébreu avec Dieu, dans la Genèse et dans l'Exode. C'est ça que nous devons saisir, puisque chaque fois dans la révélation, Dieu se révèle et nous révèle en même temps ce que nous sommes. Et donc il nous révèle comment, de fait, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de beaucoup plus universel dès qu'on est en face du peuple d'Israël, qui va naître, qui commence à naître. Alors, c'est en référence à ce peuple que Moïse, qui a réfléchi, s'ils me disent quel est son nom, le nom de Dieu, ce n'est pas d'être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est une référence familiale. C'est celle que nous aimons le plus, affectivement. Mais ce n'est pas une référence qui dit ce qu'est Dieu. Je ne comprends pas ce qu'est Dieu lorsque Dieu se met en référence avec Abraham. Je comprends Abraham quand Abraham se met en référence avec Dieu. Je ne comprends pas Dieu quand Dieu se met en référence avec Abraham. Donc ce n'est pas le nom de Dieu. C'est tout simplement la fidélité et l'alliance. Mais si l'alliance pour le peuple hébreu est trop lointaine, pour Dieu, elle est vécue dans la fidélité, ça a été dit. Mais dans le peuple d'Israël, dans le peuple hébreu, il n'y a pas la même fidélité. Il n'y a pas la même mémoire. Il y a quelque chose qui a été rompu. La servitude. La servitude à l'égard de l'Égyptien. Le peuple d'Israël est dans la diaspora. Il est dans la servitude. Il ne connaît plus son unité. Et il ne sait plus quelle est son unité. Par le fait même, ce n'est plus suffisant de dire le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quel est son nom ? Il faut donc maintenant que Dieu se révèle lui-même, indépendamment d'une référence à l'égard de tradition religieuse. Vous voyez, le passage de la tradition religieuse à une connaissance directe, plus personnelle de Dieu. Quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Vous comprenez que si je le prends dans le contexte, il y a une alliance entre Abraham, entre Moïse et Dieu. C'est le Dieu des pères. C'est donc un approfondissement par rapport à cette tradition religieuse. C'est de vouloir connaître le nom de Dieu et la signification profonde du mystère de Dieu. Ça ne peut être que quelque chose de positif. Et Moïse le reçoit bien comme quelque chose de positif. Et non pas du tout comme quelque chose de négatif. Et Dieu montre bien comment ce quelque chose de positif doit être utilisé. Il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis. Donc Dieu lui-même utilise le nom qu'il a donné. Je suis m'a envoyé vers vous. Donc, selon le contexte, c'est impossible de le donner de façon négative. Si je retire du contexte et je prends uniquement la phrase en elle-même, je suis qui je suis, évidemment, dans n'importe quel contexte, ça peut signifier très bien, dans un contexte tout à fait différent, ça peut très bien signifier quelqu'un qui se voile. Mais dans le contexte même, je crois que c'est impossible de le dire. Dieu se dévoile par le « je suis ». Et il le montre bien quand il lui-même reprend « je suis m'a envoyé vers vous ». Pour montrer que Moïse est en relation directe avec Dieu. Il n'est pas l'envoyé d'Abraham, il n'est pas l'envoyé d'Isaac, il n'est pas l'envoyé de Jacob. Il y a un nouveau lien avec Moïse et avec Yahvé, avec Dieu, avec Je suis.